BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Dans un instant, mon invité, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parlera de travail de nuit, de retraite, après les déclarations il y a quelques instants sur BFM TV de Jean-Paul Delevoye. On parlera de la clause du grand-père et puis bien sûr, on parlera du 5 décembre pour savoir si pour vous, c'est un moment décisif ou pas. Je recevrai aussi Pierre-Jérôme Hénin, l'ancien conseiller de Michel Barnier, est aujourd'hui le patron de Progressive Company. On viendra bien sûr sur les déclarations d'Emmanuel Macron, comme quoi les 3%, l'arrêt des 3%, c'est vraiment un débat d'un autre siècle. Et puis, il y a ces auditions très importantes de Thierry Breton, le candidat français pour le commissariat au marché de l'intérieur. Et puis, je recevrai le publicitaire Jean-Marie Drumet. Pour l'instant, passe à l'actualité avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec la première estimation de croissance pour l'économie française pour le quatrième trimestre. Et le verdict de la Banque de France, eh bien, c'est 0,2%. Voilà la prévision donc de la Banque de France. On serait donc en léger repli si ce chiffre est confirmé par rapport au 0,3%. Observez à chaque trimestre depuis le début de l'année. La Banque de France explique ce recul par un ralentissement possible de l'activité en novembre dans le bâtiment et dans l'automobile. Le gouvernement tape toujours sur 1,4 point de croissance cette année contre 1,3% pour la Banque de France. On parlait d'automobile et vous savez que la menace américaine de nouveaux droits de douane sur les constructeurs européens plane toujours, avec cette deadline donc fixée au 14 novembre. Mais la menace semble de plus en plus s'éloigner d'après Bruxelles. Les taxes seraient reportées de 6 mois. Les Américains avaient eux-mêmes fait comprendre il y a quelques jours qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de nouveaux droits de douane automobile cette semaine. Et ce n'est donc pas totalement un hasard si le moral des investisseurs en Allemagne, l'un des pays les plus perturbés par ces tensions commerciales, s'est nettement amélioré depuis le début du mois. Le moral des investisseurs est passé de moins 22,8 en octobre à moins 2,1 depuis début novembre, donc vous voyez, divisé par 10. Les investisseurs allemands parient sur une amélioration dans un avenir proche du climat économique mondial. Le chiffre de la croissance allemande est publié ce jeudi. Et puis en Grande-Bretagne, malgré toutes les incertitudes qui persistent sur le dossier du Brexit, le taux de chômage reste toujours aussi faible et il a même baissé à 3,8% sur les 3 derniers mois fin septembre contre 3,9% fin août. Et puis vous le disiez Edwige, c'est une semaine test pour Thierry Breton. Le candidat de la France pour la Commission européenne sera entendu ce jeudi par les députés européens et sa déclaration d'intérêt financier est examinée aujourd'hui. Pour éviter tout risque de conflit d'intérêt, Thierry Breton fait savoir qu'il a démissionné de tous ses mandats d'administrateur et direction et qu'il a cédé toutes ses parts au sein du groupe Atos. Retour en France avec les dernières déclarations de Jean-Paul Delevoye sur les dossiers des retraites et avec ce qui ressemble à un début de concession sur la fameuse clause du grand-père. Autrement dit, l'idée de n'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Jean-Paul Delevoye se dit prêt en effet à appliquer cette clause pour certaines professions pour faciliter leur passage et leur transition vers le régime universel. Mais le haut-commissaire redit qu'il s'oppose à la généralisation de la clause à toutes les professions. Dans l'actualité des entreprises, les mauvaises publications se suivent et se ressemblent. Pour Nissan, le constructeur japonais publie un nouveau profit warning après un très mauvais premier semestre, recul du bénéfice d'exploitation de 70% et de 55% du bénéfice net. Du coup, Nissan revoit nettement à la baisse tous ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de résultats. Et puis pour finir, la hausse du jour sur les marchés, elle est pour Iliad, plus 18% à la mi-journée sur le CAC 40. Après que Xavier Niel a annoncé une augmentation de capital via un plan de rachat d'actions à hauteur de 1,4 milliard d'euros, soit 20% du capital d'Iliad. Xavier Niel possède déjà 52% des parts de l'entreprise. Iliad a par ailleurs publié une hausse de 8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. BFM Business, il est midi 3. On reste sur les marchés, justement, à la mi-journée. Le CAC 40 qui progresse, qui gagne 0,32% à 5 912 points. On a dépassé la barre des 5 900 points, ce qui n'avait été plus vu depuis l'été 2007. L'euro-dollar est stable, un euro s'échange pour 1,1022.
Merci Thomas. À suivre, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Avec vous, on va parler du recul du chômage. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? On va parler bien sûr des retraites, la clause du grand-père. Et puis on viendra sur le travail de nuit, puisqu'un texte est présenté demain. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Yves Verrier, on avait pendant la page de pub une conversation intéressante du reste sur qui a déserté quoi. C'est-à-dire, est-ce que, comme le disait Arnaud Montebourg à ce même micro la semaine dernière, le politique a déserté l'économie? Est-ce que c'est l'économie qui a déserté le politique? Est-ce que c'est le politique qui considère... On reviendra peut-être si on a le temps sur ces questions, mais c'est vrai qu'il y a une actualité très chargée. On va parler des retraites avec les déclarations de Jean-Paul Delevoye, le quoi quand même au niveau du gouvernement et du président de la République, par de l'assurance chômage. Mais je voudrais d'abord qu'on regarde ces chiffres, prévisions, chiffres provisoires de l'INSEE, qui montrent que de nouveau un petit recul du chômage. Hein. Alors, en l'occurrence, 263 000 emplois ont été créés en un an, plus de 540 000 emplois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonne nouvelle quand même pour la France, j'allais dire, ou plutôt pour les Français.
À chaque fois que le chômage diminue, que l'emploi augmente, c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de constater, malgré une prévision qu'on vient d'évoquer un peu à la baisse de la croissance pour le trimestre, que la France a été un peu plus épargnée que les autres
de
la récession
mieux.
Mondiale sur le plan économique. Et ça, c'est aussi lié au fait que l'économie en France est plutôt tirée, plus que d'autres, par la demande intérieure et moins par l'export. Alors, c'est parfois une difficulté, mais en l'occurrence, ça m'amène à revenir sur la question que nous associons à l'emploi, c'est celle du salaire. Et quand nous disons que le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, augmenter les salaires, redonner du pouvoir d'achat d'une manière générale, on pourra parler des retraites d'ailleurs, parce que on parle souvent du coût des retraites, on oublie que les retraites,
ça n'est pas un madeleine, si vous voulez bien.
Ça crée de l'emploi. Oui, mais ça crée de l'emploi, justement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, la question, c'est celle de la nature et de la qualité des emplois. Il y a trop d'emplois créés à durée déterminée et à durée déterminée.
Même si les derniers chiffres montrent quand même que
ça s'améliore un peu.
Ça s'améliore. Est-ce que quand même vous vous dites, finalement, les réformes du marché du travail, elles portent, il faut reconnaître qu'elles portent leurs fruits.
Je vous dis, je pense que plus que la réforme du marché du travail, parce que si on appelle réforme du marché du travail ce qui vient de se passer comme décision sur l'assurance chômage, ça ne porte pas ses fruits.
C'était les réformes par Nicole Pénicaud de début de quinquennat, bien sûr.
La réforme, c'est laquelle ? C'est celle de la réduction de la capacité de représentation collective des salariés dans les entreprises.
C'est l'ensemble de la réforme, avec tous ces éléments y compris.
Non, mais donc pour vous, évidemment, non. Ça ne vient pas de là. Encore une fois, je pense que les entreprises créent de l'emploi quand il y a de l'activité.
Non, les chefs d'entreprise, ils créent de l'emploi quand l'activité, vous avez raison, mais quand ils ont moins peur de... on sait bien que la question des prud'hommes, ça a quand même libéré un peu le chef d'entreprise de ses craintes, fondées ou pas.
On n'a pas d'évaluation de ce point de vue. Je rappelle quand même que on avait annoncé des 1000 et des 100, 1 million de créations d'emplois avec le CICE.
Il va y arriver.
C'est de la création d'emplois naturels qui tient à l'évolution de l'économie. Oui, on a quand même un produit intérieur.
Quand il a dit 1 million d'emplois, il faut être honnête. Quand vous avez dit 1 million d'emplois, c'était pas vous n'étiez pas encore en poste. Mais tout le monde a ri, a même hué Pierre Gattaz. Mais finalement, il va y arriver.
Non, c'est les créations. C'est facile de prendre un chiffre qui, naturellement, on a un pays qui a une croissance économique qui, même si elle est faible, est quand même positive. Donc, s'il y a croissance économique, il y a croissance d'activité. S'il y a croissance d'activité, il y a croissance de l'emploi. Les difficultés que nous rencontrons, c'est qu'on a une démographie qui est assez favorable, qui fait qu'on crée de l'emploi, mais pas suffisamment pour combler
le
même niveau
personne
de taux de chômage.
Personne n'y croyait, Yves Verrier, personne n'y croyait.
Personne ne croyait à quoi ?
Si on a à la création d'emplois de 1 million.
Si on crée de l'activité, si on a de la richesse, c'est qu'on crée de l'activité. Si on crée de l'activité, on crée de l'emploi. Et ça n'est pas parce qu'on met en place un barème qui fait que si... Il ne faut pas oublier que le barème des prud'hommes, c'est un licenciement illégal, sans cause réelle et sérieuse. Ce n'est pas un licenciement économique qui est touché par la barémisation.
Enfin, en tous les cas, il y a la création d'emplois, c'est une bonne nouvelle pour la France, même si ce n'est pas à votre
encore
avis.
Encore une fois, bien évidemment, créer de l'emploi et réduire le chômage, c'est toujours une bonne nouvelle. Encore une fois, la question qui est posée, c'est quelle qualité de l'emploi ? Ça dépend du secteur d'activité.
Je recevais vendredi Carlos Tavares, qui a reçu le Grand Prix des BFM Awards, et le patron de PSA, qui va peut-être devenir le patron du quatrième groupe automobile mondial, avec le rapprochement avec SR. Il a dit plusieurs fois, il a rendu hommage au comportement responsable, constructif des syndicats, notamment de Force Ouvrière, parce que vous êtes à Aulnay, vous êtes le premier syndicat de PSA. Est-ce que sur ce rapprochement-là, vous avez des inquiétudes ? Est-ce qu'il a raison de dire on ne fermera pas d'usine sur l'emploi ? C'est un peu inhérent au secteur automobile, il y a des hauts et des bas.
On a des inquiétudes d'une manière générale sur le secteur de l'automobile en ce moment, hein, qui sont pour des raisons multiples. Il y a une raison conjoncturelle, mais d'ensemble, macro, comme on dit, qui sont liées aussi au débat sur le climat, le rôle de la voiture, avec cette annonce de la fin du moteur thermique en 2040, qui inquiète beaucoup le secteur de l'automobile, de la construction automobile en termes d'emploi. On sait que la voiture hybride ne demande pas autant d'emplois, c'est 1 pour 5 ou 1 pour 4 que le moteur thermique. Donc il y a une baisse d'activité aussi un peu générale. C'était encore indiqué à l'instant dans le journal. Donc il y a une inquiétude générale. Ensuite, sur PSA Fiat, l'interrogation, c'est effectivement, il y a une assurance sur les implantations. Il n'y a pas d'assurance sur l'emploi suffisante aujourd'hui. Et ça, c'est une inquiétude qui vient s'ajouter à ce contexte un peu plus général. Et donc, le syndicat Force ouvrière est bien sûr responsable, à commencer vis-à-vis des salariés et de leur emploi, évidemment.
Ouais. Mais là, sur FCA, vous dites quoi ? Vous avez rencontré, est-ce que, bah, c'est pas vous, évidemment, Yves Verrier, mais est-ce que votre délégué au sein de PSA a déjà rencontré Carlos Tavares, il a eu des engagements.
Les engagements, c'est ceux du maintien des implantations. Oui. Encore une fois, sur l'emploi, on nous répond, bah, c'est inhérent. Oui. Voilà. Donc, évidemment, on peut toujours mettre sur le compte de telle ou telle considération.
Mais est-ce que vous dites c'est déjà ça ?
C'est déjà ça. Assurons-nous que la fusion crée de la dynamique et de l'emploi et de l'emploi en France. Et ça, c'est ce qui nous importe.
Mais
en
est-ce,
premier
est-ce
lieu.
Qu'il faut finalement est plutôt favorable à cette fusion ?
Nous, on est favorable à ce qui pérennise
D'accord.
l'emploi et l'emploi okay. des
salariés.
Mais justement,
est-ce que cette fusion va pérenniser l'emploi au sein de PSA
nous ne sommes pas pour ou contre, en principe, telle ou telle restructuration ou réorganisation okay. ou évolution. Ce qui nous importe, c'est quelles sont les conséquences du point de vue de l'emploi, du niveau des salaires, de l'évolution de l'emploi.
Justement, ça fera peut-être le lien ensuite, parce qu'on a le dossier des retraites, mais le travail de nuit, il y a un projet de loi qui doit être présenté demain, avec une liberté quand même assez grande pour les commerces et les chefs d'entreprise. Quelle est votre position ? Est-ce que pour vous...
C'est absolument inacceptable. On n'a aucune raison de généraliser le fait qu'entre 21h et minuit, on ne serait plus considéré en travail de nuit dans le commerce alimentaire. Ça n'a pas de sens sur le plan économique, ça n'a pas de sens sur le plan de la consommation, et ça a surtout un sens qui est celui de dégrader les conditions d'emploi des salariés concernés.
Ça a un sens sur le plan de la consommation, Yves Verrier. Je ne sais pas si vous arrivez peut-être de faire vos courses quand même parfois parce que vous sortez tard de force ouvrière à partir de 21h. Donc, je veux dire, il y a des habitudes qui évoluent beaucoup. Voilà, après,
mais ça, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous créez de l'offre, vous aurez toujours quelqu'un qui utilisera l'offre. Mmh. La réglementation, elle a pour objectif de réglementer l'offre, y compris du point de vue et avant tout des conditions de travail des salariés. Le travail de nuit nuit à la santé. On va parler des retraites. On nous dit on va mettre l'accent sur la pénibilité dans le cadre de la réforme du régime universel des retraites. Et là, on nous dit tout d'un coup que travailler dans le commerce alimentaire de 21h à minuit, ça n'est pas pénible. Il ne faut pas oublier que le travail de nuit, c'est très encadré. Il y a bien sûr des compensations en termes de rémunération. Là, on va toucher au portefeuille, y compris des salariés concernés. Il y a des compensations obligatoires en termes de repos. Et puis, il y a un suivi et un encadrement médical et des dispositions qui doivent être prises en termes de priorité à l'accès en emploi de jour ou en fonction de la situation personnelle, la possibilité de refuser de se voir imposer un travail de nuit. Bref, le travail de nuit, ça n'est pas rien.
Donc, est-ce que vous dites, parce que vous étiez déjà contre, vous étiez contre le travail le dimanche, donc il y a eu des protections quand même qui ont été apportées, des garde-fous, il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu des augmentations pour amener ses enfants à la crèche, bref, il y a eu quand même pas mal de garde-fous. Est-ce qu'au moins vous dites, il faut au moins la même chose pour le travail de nuit ?
Le travail de nuit touche à la santé des salariés. On sait qu'un travailleur de nuit à son espérance de vie sur une longue carrière qui peut être affectée par le travail de nuit. Donc, toutes les précautions doivent être prises en matière médicale, en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. N'oublions pas que dans le même temps, on supprime les CHSCT, les comités d'hygiène et de sécurité au travail. On les supprime dans certains endroits. Si vous avez moins de 300 salariés, ce qui est souvent le cas dans les commerces alimentaires, vous n'avez pas d'obligation de mettre en place une commission spécifique sur la santé et la sécurité au travail. Donc, il y a et vous me disiez les contreparties. Quand vous banalisez, eh bien, vous ne négociez plus de contreparties.
Mais ça veut dire que vous rejetez en bloc le texte, ou alors vous dites, il faut, doit négocier, on demande des garanties.
Non, je demande à ce qu'on conserve le fait que de 21h à minuit, on est bien considéré en situation de travail de nuit, et que du coup, on peut bénéficier, quand on est dans ces circonstances, des garanties qui y sont associées. Et si certains commerces alimentaires ouvrent de 21h à minuit, et que ça répond à une demande, eh bien, que les salariés concernés soient protégés à hauteur de ce que représente le travail de nuit et soient compensés, rémunérés en conséquence.
Vous avez été concerté sur ce texte ou pas ?
Non.
Non ? Il sort d'où ? Parce qu'en fait,
mouvement un peu généralisé. On pense
c'est la société.
Qui plus est, ce qui est quand même frappant, c'est que c'est des emplois non délocalisables. On ne peut pas nous dire là qu'il s'agit d'un enjeu de compétitivité par rapport à un risque de délocalisation de l'emploi. Donc, encore une fois, on a besoin d'emplois. On va sanctionner les salariés demandeurs d'emploi. Demain, on va rendre plus difficile l'entrée dans le droit en termes d'indemnisation de chômage. On va réduire le niveau de l'indemnisation chômage, nous dit-on, pour contraindre, forcer les salariés à prendre de l'emploi, à privilégier l'emploi sur l'indemnisation chômage. Mais si c'est pour contraindre à accepter ce type d'emploi, on voit bien à quel point ça n'est pas acceptable.
Mais vous avez, et parfois je te dis, crié au loup sur le texte sur le travail le dimanche. In fine, on n'a pas vu de contestation massive. Hein. Au contraire, il y a des accords qui ont été signés au sein des grands magasins, des salariés.
Il y a eu et il y a encore récemment des mouvements de protestation qui ne sont pas du fait des seuls salariés d'ailleurs, parce que ça touche aussi le petit commerce qui se voit en difficulté par l'ouverture le dimanche des grandes surfaces. Bien évidemment, là où malheureusement c'est mis en place, nos syndicats défendent au mieux les salariés concernés en essayant de négocier des contreparties, bien évidemment. Mais notre position de départ, elle est opposée à la généralisation, à la banalisation du travail de dimanche et du travail de nuit.
Les retraites, là aussi vous êtes opposé évidemment à la réforme des retraites sur le système universel. Comment est-ce que vous observez, vous regardez, analysez, c'est quoi qu'un peu au niveau du gouvernement d'Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire en charge de cette réforme, a été chez nos confrères de BFM TV et a réouvert un peu une porte qu'il avait fermée sur la fameuse clause du grand-père, mais pour certains secteurs, en disant que la généralisation de ces clauses du grand-père, c'est comme repousser en calende grecque la réforme. Je sais pas, le patron de FO, il dit quoi ?
Mais que la sagesse voudrait qu'on revienne autour de la table au point de départ, parce que je l'ai dit, le gouvernement s'est rendu compte.
Vous avez discuté de un an, deux ans avec Jean-Paul Delevoye.
Oui, mais justement, le gouvernement s'est rendu compte petit à petit que ce projet de système universel de retraite par points avec le euro cotisé qui donnera les mêmes droits et qui semblait attractif et devoir recueillir l'assentiment général, eh bien le gouvernement s'est aperçu, parce que nous avons, en tout cas Force ouvrière, expliqué systématiquement pourquoi nous n'étions pas d'accord avec le principe même d'un régime unique par points. C'est comme ça que moi je l'appelle, et à juste titre. Et il a dû retarder dans un premier temps son calendrier. On devait avoir un projet de loi à fin de l'année 2018, puis à l'été 2019, maintenant peut-être à l'été 2020. Et aujourd'hui, on nous dit clause du grand-père, transition, prendre toutes les précautions.
Pour des régimes spéciaux.
Oui, enfin.
Bon. Certains.
Les options du rapport du haut-commissaire, comme celles qui ont été remises à jour récemment dans le cadre des réunions que le haut-commissaire a avec telle ou telle organisation syndicale, remettaient l'actualité l'option d'une clause du grand-père généralisée.
Mais vous, on vous dit quoi ? Parce que j'imagine que vous avez quand même les conseillers du Premier ministre, voire du Président au téléphone, Yves Verrier.
Oui.
Ils vous disent quoi ? Ils vous disent, surtout n'écoutez pas ce que dit Jean-Paul Delevoye,
le
rapport.
Pas.
Ils vous disent quoi ?
Je ne suis pas au milieu des débats entre les ministres et la présidence de la République.
Qu'est-ce qu'on vous dit à vous, Force ouvrière ?
ce qu'on nous dit.
Il y aura clause de grand-père.
À nous, c'est ce qui a été dit à tout le monde, c'est que le rapport du haut-commissaire contient plusieurs options, dont celle de la clause du grand-père, dont celle dont le haut-commissaire nous parle depuis le début, de la nécessité de transition plus ou moins longue. On voit bien en tout cas que ça signifie très clairement que si on évoque ces aspects-là, que le régime qu'on nous promet ne sera pas une garantie des droits que nous connaissons aujourd'hui en matière de retraite.
Si, justement.
Bien au contraire.
Mais
non,
puisqu'on nous dit
qu'on va garantir à ceux qui sont en activité le maintien de leurs droits. Mais ça signifie bien que le futur régime ne contiendra pas des droits de même niveau, des droits équivalents aux droits existants aujourd'hui. C'est bien tout l'enjeu du sujet.
Parce qu'il dit sinon, il risque d'avoir, ce qui serait une première chez nous, une rupture générationnelle en fait entre les jeunes qui pensent qu'ils n'auront plus de retraite et puis les retraités qui se disent on n'aura pas de retraite à la hauteur de ce qu'on a travaillé.
Mais les jeunes ne se disent pas on n'aura plus de retraite. Les jeunes, leur inquiétude, c'est de ne pas avoir d'emploi qui leur permette d'avoir...
Non, c'est de ne pas avoir de retraite. Enfin, aussi.
Non.
Mais c'est aussi... Mais si, on regarde
les jeunes,
sondages.
Leur inquiétude, c'est de ne pas avoir d'emploi dès l'entrée dans la vie active, assez tôt dans la vie active, avec un temps plein, jusqu'au moment de pouvoir faire valoir demain leur droit à la retraite. Quand on est jeune, en général, on n'y pense pas vraiment. Et qui fait que ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'une retraite à taux plein.
Est-ce que Jean-Paul Delevoye, il a encore il a le crédit nécessaire pour conduire cette réforme, vous pensez ?
Ah, mais moi, je ne mets pas en cause les personnes. La question, c'est la réforme
c'est
elle-même
personnes...
qui me préoccupe.
Oui, non, mais c'est lui qui l'a conduit. C'est lui qui l'a conduit.
Monsieur Delevoye, le Premier ministre ou le Président de la République. Mon souci, c'est le contenu de cette réforme de régime unique par points. Il faut bien comprendre que le régime unique par points remet en cause un système qui fonctionne, qui
Mais qui fonctionnait au lendemain de la guerre. Il y a des choses qui s'est...
Non, il fonctionne très bien.
C'est l'avenir du 21e siècle. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit Jean-Paul Delevoye. Il a tort, il se trompe complètement.
Oui, il se trompe. Le système de retraite actuel est parfaitement moderne. Il peut évoluer, il doit évoluer.
Il est compliqué.
Pourquoi il est compliqué ?
Chacun a un régime différent.
Vous avez 18 millions de salariés qui cotisent au régime général de la sécurité sociale,
au
régime de base de la sécurité sociale.
Oui.
13-14 millions de retraités qui en bénéficient. Aujourd'hui, vous avez effectivement des carrières et vous avez de plus en plus
heurtés,
de polypensionnés, comme on dit.
Exactement.
Mais le système de retraite actuel a mis en place ce qu'on appelle un groupe d'intérêt public, Union Retraite, qui fait qu'aujourd'hui, on liquide sa retraite, même quand on est polypensionné sur un seul régime.
Donc, à la limite, vous balayez tout ce qui se passe, vous dites, de toute manière, nous, on est en opposition.
Je ne balaye rien de ce qui se passe, je dis simplement que le système actuel de retraite s'est adapté aux situations actuelles, c'est largement simplifié. Si vous allez, quand vous atteignez 50 ans, 55 ans sur Info Retraite, vous avez une idée précise de ce que seront vos droits à la retraite en fonction du moment où vous liquiderez votre retraite, et y compris quand vous êtes polypensionné, donc tout cela fonctionne très bien.
Est-ce que la clause du grand-père peut être une soupape de refroidissement, à votre avis ?
Évidemment, c'est comme ça que le gouvernement le voit. Garantir à ceux qui risquent de se mobiliser aujourd'hui parce que craignant de perdre des droits en matière de retraite, qu'eux ne les perdront pas. Mais c'est promettre à ceux qui vont entrer dans la vie active un système de retraite qui ne sera pas aussi favorable que le système actuel. Et c'est bien là tout l'enjeu.
Le 5 décembre, vous serez dans la rue, évidemment.
On appelle à la grève, je l'ai dit. À un moment donné, les manifestations, l'expérience a montré qu'elle ne suffisait pas à se faire entendre. Mmh. Et donc, en dernier ressort, on a effectivement décidé de faire en sorte que les salariés, et je le dis, ça n'est pas les régimes spéciaux, c'est l'ensemble des salariés qui sont concernés.
C'est la SNCF aussi, beaucoup, qui est au départ.
C'est
la SNCF, donc un régime spécial, c'est la SNCF.
Oui, mais la réforme, le régime unique par points, c'est l'ensemble du système actuel qui disparaît, et c'est les 25 meilleures années sur lesquelles on calcule la retraite quand on est dans le secteur privé, qui seront remplacées par l'obligation d'acheter des points tout au long de sa vie active, y compris dans les périodes difficiles.
Et c'est pour ça qu'ils veulent réintégrer les primes. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous a expliqué ce matin Jean-Paul Delevoye. Ils veulent réintégrer les primes pour les fonctionnaires. Oui, mais ça, c'est plutôt un plus. En disant, sinon, du reste, il y a même un institut...
C'est pas un plus. C'est aujourd'hui, les fonctionnaires qui ont un calcul de la retraite qui est hors primes, donc sur le salaire sans les primes, alors que les primes peuvent représenter 30, 40, 50% de la rémunération.
9% pour les enseignants, 22% pour les fonctionnaires.
Sur les 6 derniers mois. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle le taux de remplacement, c'est-à-dire ce que représente la retraite d'un fonctionnaire par rapport à son dernier salaire, est équivalent, voire même un peu inférieur, au taux de remplacement d'un salarié du secteur privé. Donc, intégrer les primes, ça n'est pas pour améliorer la situation, c'est pour... Quand on passerait d'un système où on calcule sur les 6 derniers mois à un système où il faudrait acheter des points tout au long de sa carrière, on intégrerait les primes en indiquant aux fonctionnaires que, comme ça, ça compensera déficit. Sauf que ça reste à vérifier.
Yves Verrier, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà remonté sur la mobilisation du 5 décembre ? Parce qu'elles elles semblent importantes aujourd'hui.
Oui, je pense qu'elle sera importante. Elle sera
mais vous avez des remontées enfin,
J'ai les remontées des syndicats FO qui, dans une entreprise, là, dans une administration, sont en train de réunir les salariés, d'expliquer ce qu'est le dossier. On a mis en ligne sur le site internet un quiz, question-réponse, un décryptage de l'enjeu de cette réforme pour aider justement à ce que chacun comprenne et que chacun comprenne l'enjeu et considère qu'effectivement, défendre notre système de retraite, militer, on va déposer nos revendications précises pour améliorer les choses aujourd'hui en tenant compte des évolutions récentes du travail notamment, eh bien ça en vaut la peine et ça vaut la peine de se mobiliser
du 5. Jeudi, vous appelez une autre grande manifestation, ça c'est pour les hôpitaux.
Alors jeudi, il y a d'une part l'administration des finances publiques qui est très mobilisée, il va y avoir une grosse journée de mobilisation dans l'administration de la finance publique, c'est la fermeture des trésoreries, des services des impôts, etc. Et puis il y a une mobilisation dans le secteur hospitalier à laquelle la Fédération FO apporte bien évidemment son plein soutien parce qu'il y a des enjeux majeurs là aussi en termes de rémunération, d'effectifs, de moyens, de conditions de travail.
Est-ce que vous avez le sentiment quand même que oui, ça va être difficile, enfin la France et nous Français, il faut s'attendre à quelques jours difficiles ?
Bien, des jours difficiles, oui, mais les jours sont difficiles aujourd'hui pour beaucoup de salariés, trop de salariés, y compris du point de vue de la retraite, je l'ai souvent dit, pour beaucoup, 62 ans, c'est déjà trop, beaucoup attendent avec impatience de pouvoir partir enfin à la retraite quand on est agent à l'hôpital, quand on est salarié dans certains services difficiles ou des métiers difficiles, par exemple quand on travaille la nuit, en l'occurrence.
Et donc le climat social lourd, on s'achemine vers des tensions sociales fortes.
On est dans une situation tendue. C'est pour ça que je dis que la sagesse voudrait qu'on revienne au point de départ, qu'on remette à plat cette question.
À ce moment-là, on se trouve vers un régime déficitaire pour les retraites, donc c'est mauvais pour tout le monde.
Non. Mais écoutez, on nous dit, il nous manque 10 milliards à horizon de 2025. Ouais. Je rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, on sert 140 milliards, c'est M. Darmanin, d'aide publique aux entreprises au titre de l'emploi. Est-ce qu'elles sont efficaces,
ces 140 milliards ça crée de l'emploi.
Au titre de l'emploi. Non, personne n'a pu évaluer.
Mais 140 milliards, vous mettez des chèvres et des choux. Vous mettez un peu des chèvres.
Non, il y a du crédit d'impôt, des allègements de cotisations, du crédit impôt recherche, etc., etc. Mais toutes ces aides ont été faites pour créer de l'emploi. Bon, eh bien, moi, j'estime qu'on devrait évaluer sérieusement et, entre nous, s'il fallait descendre de 140 à 130, bien sûr que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour illustrer la question, et ces 10 milliards, les mettre dans le régime des retraites, on a équilibré le régime des retraites. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que les 314 milliards des retraites, ce que représentent les retraites, c'est pas un bas de laine, ça redistribue dans l'économie, les retraités consomment de diverses manières.
Surtout.
Et créer de l'emploi.
Merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, pour qui cette réforme des retraites n'est décidément pas la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans un instant. Je recevrai Pierre-Jérôme Hénin, on parlera de cette semaine décisive pour la France et pour Thierry Breton à la Commission européenne et au Parlement européen.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Et on se dépêche, on va parler d'Europe donc avec Pierre-Jérôme Hénin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, ancien conseiller de Michel Barnier, président de Progressive Company. Tout de suite le rappel des titres avec Thomas Asportas.
Et la Banque de France qui prévoit 0,2% de croissance pour le quatrième trimestre. Et si le chiffre se confirme, eh bien ce serait un léger repli par rapport aux 0,3% observés à chaque trimestre depuis le début de l'année. La Banque de France explique ce recul par un ralentissement possible de l'activité en novembre dans le bâtiment et dans l'automobile. Le gouvernement tape toujours sur 1,4% de croissance cette année contre 1,3% pour la Banque de France. Le moral des investisseurs en Allemagne, l'un des pays les plus touchés par les tensions commerciales, s'est nettement amélioré depuis le début du mois. Il est passé de moins 22,8 en octobre à moins 2,1 depuis début novembre. Les investisseurs allemands parient sur une amélioration dans un avenir proche du climat économique mondial. Le chiffre de la croissance allemande au troisième trimestre, très attendu, est publié ce jeudi. Jean-Paul Delevoye pourrait faire une ouverture sur la fameuse clause du grand-père. On en parlait à l'instant avec notre invité Yves Verrier de Force Ouvrière. La clause du grand-père, donc l'idée de n'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Eh bien, Jean-Paul Delevoye se dit prêt à l'appliquer pour certaines professions pour faciliter leur transition, leur passage vers le régime universel. Mais le haut commissaire redit qu'il s'oppose à la généralisation de la clause à toutes les professions. Et puis pour finir, les mauvaises publications se suivent et se ressemblent pour Nissan. Le constructeur japonais publie un nouveau profit warning après un très mauvais premier semestre. Recul du bénéfice d'exploitation de 70% et de 55% du bénéfice net. Du coup, Nissan revoit nettement à la baisse tous ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de résultats. BFM Business, bientôt midi 33. Je vous redonne le CAC. À la mi-journée, le CAC 40 est toujours dans le vert, gagne 0,28% à 5 910 points. Nouveau plus haut annuel. L'euro-dollar, quant à lui, à la mi-journée, eh bien, cède un petit peu de terrain. On abandonne 0,13% en euros s'échange pour 1,10$.
Merci Thomas. À suivre Pierre-Jérôme Hénin. On parle d'Europe, bien sûr, et de ses auditions clés pour Thierry Breton et la France.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Pierre-Jérôme Hénin, président de Progressive Company, ancien conseiller de Michel Barnier. Merci encore une fois d'être avec nous. Pierre-Jérôme Hénin, beaucoup de questions à voir avec vous, parce qu'il y a d'abord ces auditions, semaine un peu décisive pour Thierry Breton, donc qui est le candidat de la France pour le marché intérieur. Un énorme poste, hein, on verra s'il n'est pas surdimensionné. Bien personnel, ces déclarations d'intérêt est passée aujourd'hui au crible par le Parlement européen. Et puis on reviendra sur l'interview quand même assez fort, assez choc d'Emmanuel Macron dans The Economist, notamment sur la règle des 3%. Thierry Breton, il a toutes les chances, à votre avis, de passer le test, ou on ne sait jamais?
Écoutez, j'espère qu'il a toutes les chances. En tout cas, il a toutes les qualités, de par son passé à la fois dans le secteur public et dans le privé. Il a plus que fait ses preuves. C'est un moment important pour la France, qui présente pour la deuxième fois un candidat. C'est un moment important pour la démocratie en Europe. La France n'est pas seule, puisque vous avez aussi la Roumanie et la Hongrie qui présentent également des candidats. Donc je rappelle le principe pour les gens qui nous regardent. Chaque pays propose un candidat pour le poste de commissaire. Ce candidat est auditionné ensuite au Parlement européen.
14 novembre pour Thierry Breton.
Absolument.
Une audition qui dure 3 heures, c'est un exercice difficile. Ben, on a bien vu pour Sylvie Goulard. Hein. Donc c'est pour ça que cette déclaration d'intérêt, elle est très importante. Hein.
Absolument.
Surtout pour Thierry Breton, qui avait des actions Atos et puis un patrimoine quand même assez significatif.
Il ne faut pas sous-estimer le rôle du Parlement européen, qui a des responsabilités de plus en plus importantes depuis quelques années, et c'est tant mieux, c'est la démocratie, c'est l'expression parfaite de la démocratie européenne. Il a un droit de regard sur les candidats à la Commission, et c'est parfaitement normal. Et c'est vrai qu'il fait son travail de manière scrupuleuse, fouillée, tout à fait transparente, et un certain nombre d'aspects sont passés au crible, dont les compétences, et c'est normal quand vous postuler un poste aussi important et avec un portefeuille, vous l'avez rappelé, aussi étendu, il faut en avoir les compétences, mais aussi il faut que votre situation personnelle, vos biens personnels, tout soit absolument transparent et clair de ce point de vue-là, et c'est bien normal.
Ce portefeuille, il comprendra notamment l'intelligence artificielle et les supercalculateurs, chose que fait justement Atos aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque là, du point de vue des parlementaires européens?
Il faudra que toutes les dispositions soient prises pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, mais d'après ce que je comprends, c'est tout à fait envisageable. Vous soulevez un point très important. Vous parliez tout à l'heure de l'interview du président de la République, interview dans laquelle il insiste notamment sur les investissements nécessaires à faire par les Européens,
on y vient.
Pour l'intelligence artificielle, et c'est un enjeu absolument majeur, collectif pour l'Europe.
Oui, alors c'est majeur, mais cela dit, il dit dans cette interview que je vous recommande de lire, hein, en tous les cas, parce que c'est vraiment c'est un interview disruptif, hein, où il dit, en tous les cas, il fustige la règle des 3% du déficit public, ce débat est d'un autre siècle, un peu dommage que ce soit la France qui ne tient pas vraiment ses engagements qui le dise. Il dit l'Europe sous-investit et faute de changer profondément son logiciel économique, elle se prépare à une prochaine crise.
Il dit beaucoup de choses dans cette interview, dans un certain nombre de domaines.
Vous êtes d'accord là-dessus déjà? Oui, mais là-dessus, restons là-dessus sur les 3% et sur le fait que l'Europe
C'est un débat qu'il faut poser. C'est un débat qui illustre en fait une division au sein de l'Europe entre des pays plutôt nordiques du nord de l'Europe qui sont pour un respect assez strict des procédures budgétaires, des grands équilibres budgétaires, et une Europe plutôt du sud qui, elle, peut se montrer un peu plus laxiste. En tout cas, ce que dit le président de la République, c'est qu'il faut que nous investissions de manière massive dans un certain nombre de secteurs, la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud par exemple, alors que les États-Unis le font très massivement, alors que les Chinois le font, alors que les Russes le font, nous sommes en retard. Donc au lieu de financer, comme il le dit, les retraites américaines, nous ferions mieux d'orienter nos flux financiers vers ces investissements-là, sinon on va être totalement largué et on en paiera le prix dans les années à venir.
Oui, mais là vous répondez, c'est un point important, Pierre-Jérôme Ménard, mais en même temps, sur les 3%, est-ce que c'est une règle d'un autre siècle ?
Écoutez, c'est une règle qui, en tout cas, dont l'applicabilité stricte doit être posée sur la table si on veut mener des politiques d'investissement efficaces. Peut-être que, en effet, elle était valable il y a quelques années. Peut-être qu'en effet, c'était une règle du siècle passé. En tout cas, le débat doit être posé. Ensuite, il y a la forme que l'on met à ce débat. Pas question d'être trop brutal, certains peuvent le prendre mal et se braquer, ce qui irait tout à fait dans le sens contraire de ce que souhaite le président de la République.
Ah bah pas vraiment, parce que là vous faites de la politique politicienne, Pierre-Jérôme, parce que en l'occurrence ça a choqué cette interview à The Economist, parce que c'est la forme, elle est assez virulente. Hein,
absolument, c'est ce que je dis. La forme est virulente, et il ne faut pas que cette forme.
Et les Allemands ont déjà réagi en disant.
Il ne faut pas que la forme prenne le pas sur le fond. Le président de la République pose de bonnes questions, que ce soit sur cette règle des 3%, que ce soit sur le futur de notre sécurité, de notre défense. Reste ensuite à ce que la forme et la manière dont les choses sont exprimées ne choquent pas nos partenaires.
Oui, d'accord. Il y a un autre point aussi clé, c'est qu'il dit « l'OTAN est en mort cérébrale ». Autre déclaration forte du président de la République française. Il a raison, non ?
Il pose les bonnes questions.
Oui, ça on a compris, mais est-ce qu'il a raison ?
Oui, je pense qu'il a raison. Voilà. En fait, la question, c'est de savoir si l'OTAN, qui a été fondée en 1949, n'est pas une organisation devenue obsolète, comme le dit d'ailleurs le président Trump. Il pose la question de la nature de notre lien transatlantique. Et enfin, une question essentielle, est-ce que les Européens veulent ou non vraiment assumer leur propre sécurité ? Et ça, c'est une vraie question, alors que les menaces externes et internes sont extrêmement fortes. Est-ce que on veut faire notre sécurité. Il y a l'Europe de la défense qui est plutôt à l'état embryonnaire pour le moment et qui, pour nombre de pays européens, je pense aux pays baltes, je pense aux pays de l'Est, ne peut absolument pas, en l'état, les rassurer quant à la défense de leurs intérêts. Aujourd'hui, il y a l'OTAN et il n'y a pas de solution de remplacement viable au moment où on se parle.
Oui, mais c'est pour ça que certains disent qu'il faudrait qu'une OTAN européenne, parce que c'est une,
mais l'OTAN
une forme de l'Europe de la défense.
L'OTAN et l'Union européenne travaillent déjà ensemble. Il faut penser aujourd'hui l'OTAN et l'Union européenne de manière complémentaire. Ce ne sont pas les mêmes moyens, ce ne sont pas aujourd'hui les mêmes ambitions. Peut-être un jour ira-t-on vers une armée européenne. Pour le moment, j'estime que c'est absolument une chimère et qu'on en est extrêmement loin. L'Europe de la défense, sous l'impulsion notamment du président de la République, se développe, mais à un rythme lent, difficile, à 28, peut-être à 27 demain, alors que l'OTAN est déjà là depuis 1949 et est la seule organisation internationale à même de rassurer un certain nombre de partenaires, notamment vis-à-vis des velléités russes.
Oui, mais surtout, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays de l'Est hein, qui, en fait, s'ils intègrent l'Union européenne, c'est parce qu'il y avait l'OTAN. Hein, c'est surtout ça qui était important pour eux. On va rappeler, tiens, Thierry Breton, il avait fait un rapport sur l'Europe de la défense et les investissements nécessaires. On verra peut-être s'il peut l'appliquer. Et on apprend à l'instant que sa déclaration d'intérêt, enfin de patrimoine, a été validée à 12 voix contre 11. Donc, sauvée par le gong.
Écoutez, c'est la majorité.
Oui. Non, mais quand même, c'est très faible comme.
Écoutez, c'est très faible, mais bon, s'il y en a 12 contre 11, voilà, la majorité l'emporte et c'est comme ça. Voilà.
Ça vous étonne pas ? Ça montre qu'il y a un petit risque pour le 14 novembre ou pas ?
Je veux en tirer aucune conclusion. J'espère que ça se passera bien. Cet homme en a les compétences. Et j'espère que le Parlement les reconnaîtra.
Si je reviens sur l'OTAN, il y a un problème de financement, il y a un problème de Donald Trump qui veut plus financer l'OTAN. Donc il faut qu'on trouve une vraie solution. Est-ce que ça sert encore? J'ai envie de dire, on est entre nous, Pierre-Jérôme Ménard, et je fais un petit peu de provoque, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose l'OTAN aujourd'hui?
Oui. L'OTAN sert encore à quelque chose, mais il est vrai que la nature de ses missions doit probablement être redéfinie. Une nouvelle fois, cette organisation a été créée en 1949 face aux troupes du pacte de Varsovie, donc il y a un côté un peu désuet. Mais il y a probablement des missions à redéfinir, mais pour le moment, c'est la seule ombrelle, c'est la seule protection militaire digne de ce nom pour un grand nombre de pays européens. Il faut comprendre que la France est dans une situation particulière par rapport à des pays comme la Pologne ou aux Pays-Baltes. Nous avons une autonomie stratégique, nous avons une autonomie militaire, nous sommes membres du Conseil permanent des Nations Unies, nous avons l'arme atomique, ce qui nous confère un rôle et des responsabilités particulières.
Oui, mais la France était pendant très longtemps sortie de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy, alors vous avez travaillé avec lui à l'Élysée, qui nous a fait réintégrer le commandement militaire, mais la France a
été La France est sortie d'une partie des instances de l'OTAN, les a réintégrées en effet sous l'impulsion du président de la République Nicolas Sarkozy, et c'est bien pour ça que le président de la République est parfaitement en droit de prendre la parole sur ce thème. Alors il a parlé de mort cérébrale. Mort cérébrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau ne fonctionne plus. Par contre, le reste du corps et les jambes fonctionnent encore très bien. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Sur le terrain, les troupes de différents pays continuent à faire des manœuvres en France, ensemble, pardon, et à pouvoir intervenir. Mais sur l'essentiel des missions, il faut revoir cela. À cela s'ajoute le fait que Donald Trump a dit qu'il en avait assez de payer pour l'OTAN, que les États européens devaient monter jusqu'à 2% de leur PIB, leur contribution aux efforts de défense, et qu'il jugeait cette organisation obsolète. Quelque part, là, le président Trump et le président Macron se rejoignent en posant les bonnes questions. Ce sera, je l'espère, un sujet à l'ordre du jour du sommet de Londres qui rassemblera les 29 membres de l'OTAN au début décembre pour en fêter le 70e anniversaire.
Oui, drôle d'anniversaire. En l'occurrence, dernière question, Brexit, est-ce que vous y voyez un peu plus clair? Vous étiez venu nous aider à décrypter, ou là on nage en plein brouillard, en plein fog?
Écoutez, ce sont les élections et le résultat des élections du 12 décembre qui nous diront est-ce qu'on est encore dans le brouillard ou est-ce qu'enfin une éclaircie apparaît. Espérons qu'une éclaircie puisse apparaître. C'est un dossier qui est gênant pour tout le monde, à commencer par la nouvelle commission qui d'ailleurs n'est pas encore entrée en fonction, qui est gênant pour le Parlement européen, qui est gênant pour un certain nombre d'États. Il faut que, au plus vite, cette question du Brexit soit derrière nous, sachant que là, une nouvelle fois, c'est l'accord de divorce qu'on va valider, mais ensuite il va falloir se repaxer et ça va prendre des années.
Merci beaucoup. Question de Pax, en l'occurrence. Merci beaucoup, Pierre-Jérôme Ménin. Et rendez-vous pris pour le 13 décembre, en l'occurrence. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Bah, tiens, on verra si Emmanuel Macron a été disruptif, peut-être dans cette interview The Economist. On en parle avec le publicitaire Jean-Marie Dru, le roi de la disruption. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Jean-Marie Dru, bonjour, regardez-moi plutôt, bonjour, merci d'être avec nous. Publicitaire, le patron, grand patron de TWA, maintenant vous êtes chairman de TWA Worldwide. Jean-Marie Dru, vous publiez un livre, un petit livre, mais qui est presque entre management et la réflexion. Intéressant parce que vous regardez un peu les grandes histoires, ceux qui ont changé le monde, entre guillemets, à vos yeux. Il y a Bernard Arnault, il y a évidemment le patron de Google, d'Apple, Elon Musk. Et vous parlez de la philosophie disruptive de ces grands dirigeants d'entreprise. Une petite question, il est disruptif Emmanuel Macron ou pas, à vos yeux? Puisque vous êtes un peu l'inventeur de ce concept de la disruption.
Oh ben, il était incontestablement très disruptif dans sa façon de, comment dirais-je, de se faire élire il y a maintenant 2 ans. Ensuite, dans la conduite des affaires au quotidien, je vous les juge. Je ne suis pas persuadé que sa façon d'avancer au quotidien. Ce qui est important lorsqu'on est...
Non, mais finissez votre phrase.
Oui, non, oui. Mais ce qui est important, je crois, c'est la façon d'arriver à faire avancer les choses. C'est pas simplement les décisions qui doivent être prises, c'est comment convaincre. Et dans sa façon d'essayer de convaincre l'ensemble de nos concitoyens du bien fondé de ses positions, je suis certain qu'il soit toujours disruptif. Mais je crois pas que ce soit le sujet de notre conversation aujourd'hui.
Non, mais si, c'est ça, si, parce que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, l'important du leadership, hein, vous dites ça pour Steve Jobs. Je trouve que c'est vraiment c'est ça qui est intéressant. Dans les exemples entre un grand chef d'entreprise ou un grand président qui veut transformer une société. Oui. Mais comme vous dites, c'est la méthode. Et là, ça blesse un petit peu la méthode. En tous les cas, c'est votre opinion. Dans ce livre, vous dites, c'est même la fin de votre introduction, on a un peu le sentiment que si on ne change pas le monde, finalement, on n'est pas grand-chose. Parce qu'on peut être on peut être un bâtisseur, on peut être un géant d'immobilier. Est-ce qu'il faut forcément être dans un secteur où on change le monde, entre guillemets? Et les guillemets sont importantes.
C'est pas le secteur, c'est que je crois que la plupart... ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, vous me l'avez compris, c'est de parler de grands dirigeants, de grands entrepreneurs qui ont marqué le monde des affaires au-delà simplement de leur propre entreprise. C'est-à-dire qu'ils laissent une trace et d'autres dirigeants s'en inspirent. Alors certains, bien évidemment, pensent que ce qu'ils font s'inscrit dans l'idée de contribuer à leur façon de changer le monde. Vous connaissez cette phrase de Steve Jobs quand il a engagé John Sculler, maintenant il y a 25-30 ans, il lui a demandé, il était président de Pepsi à l'époque, il lui a demandé, est-ce que vous voulez continuer à vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou est-ce que vous voulez venir avec moi et contribuer à changer le monde.
C'est pour ça que je vous dis ça, c'est pour ça que je vous pose cette question. Oui. Parce que j'ai lu cette interpellation, je dirais presque, je l'ai trouvé un petit peu choquante.
Oui, mais il y a deux façons de voir cela. Steve Jobs est derrière nous. Il y a deux façons de voir cela. Il y a une première qui est de dire que c'est évident que les plateformes digitales, que les grandes sociétés d'Internet, que Apple, bien évidemment, ont changé notre vie au quotidien. Bon, ça tombe sous le sens. Mais ce qu'on le voit de plus en plus, alors peut-être que c'est excessif pour vous, c'est qu'un grand nombre de chefs d'entreprise, Jobs était comme ça, mais aujourd'hui, beaucoup d'autres chefs d'entreprise pensent que c'est dans leur mission, au-delà simplement de vendre les produits ou les services qui sont les leurs, de contribuer. Alors ça peut être de la responsabilité sociale, mais ça peut être beaucoup plus de cela, de contribuer à faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons soit meilleur. Le monde a besoin d'être réparé à bien des égards, et beaucoup de chefs d'entreprise, Marc Benioff de Salesforce, Paul Polman d'Unilever,
Emmanuel Faber en France, sociale,
pensent tous véritablement que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un impact sur la société au-delà des activités quotidiennes des entreprises qu'ils dirigent. Et c'est vraiment une partie importante de ce livre. Beaucoup de gens.
Quand je dis, c'est presque un peu du management aussi, parce que vous, il y a pas mal d'anecdotes. Vous racontez les choses, quoi.
Non, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont arrivés. Si vous voulez, il faut voir l'état du monde dans lequel nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas simplement de faire de l'argent, mais c'est plus et tout autant de se poser la question en amont. Non, pas, c'est pas en aval quoi faire de l'argent que j'ai gagné, mais en amont, c'est de se poser la question de comment vous allez faire cet argent. Et donc, un très grand nombre, une incidence très directe sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pourrais prendre des exemples, il y en a beaucoup dans le livre. Paul Polman, par exemple, le président
d'Unilever. Ex-patron d'Unilever.
Oui, ben, si vous voulez, lorsqu'il est arrivé en 2009 à la présidence d'Unilever, il a expliqué qu'il ne donnerait jamais de résultats trimestriels, qu'il ne les commenterait pas, et qu'il ne commenterait systématiquement que ses actions sur le plan environnemental et sur le plan sociétal. C'est ce qu'il a fait pendant 12 ou 13 ans. Ouais. Les résultats de l'univers sont excellents, mais cet homme est persuadé qu'on ne peut plus diriger une entreprise aujourd'hui sans avoir un souci réel de l'état du monde.
J'ai une petite question là, qui me taraude. Jean-Marie Dru, vous êtes un des grands publicitaires français, voire mondial. Est-ce que finalement, cette société un peu de folie, de surconsommation, de tension, de sexisme, est-ce que c'est pas vous qui l'avez créé, vous les publicitaires? Et vous notamment, Jean-Marie Dru, enfin vous les publicitaires?
Si, oui, bien évidemment, on y a contribué.
Puisque vous écrivez un livre un peu sur la philosophie disruptive, est-ce que vous vous dites pas, tiens, mais une forme de mea culpa, quoi?
Si vous souhaitez que d'une certaine façon, oui, mais je ne suis que le représentant ou d'un ensemble général qui est l'économie de marché et que vous connaissez et qui depuis des années a créé des besoins qui parfois sont justifiés, parfois le sont un petit peu moins. Bien évidemment, mais ce qui m'intéresse moi, c'est plus la prise de conscience de tous ces dirigeants encore une fois qui pensent que dans le siècle qui est le nôtre, le rôle d'un grand patron sera tout à fait différent et je me répète sera de contribuer encore une fois à faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons soit meilleur, que les employés dans les entreprises soient mieux traités. On parle beaucoup d'empowerment depuis des années et des années. Je parle dans ce livre, par exemple, de Zhang Ruimin, qui est un patron chinois, qui a décentralisé son entreprise à un degré inimaginable, puisqu'il a créé 2000 ou 3000 équipes de 30 personnes, et qu'en fait, tout est totalement décentralisé. C'est quelqu'un qui pense, par exemple, Zhang Ruimin, que les sociétés occidentales ne savent pas tirer le meilleur parti de leurs employés. Donc, par exemple, contribuer, si vous voulez, à faire que le monde dans lequel vivons soit meilleur, c'est pas simplement faire en sorte que c'est pas simplement de la responsabilité sociale d'entreprise, c'est aussi faire en sorte que chacun des employés soit le mieux traité possible.
Est-ce qu'on peut parler de philosophie? Là aussi, c'est une question, la philosophie disruptive des grands dirigeants. Est-ce que c'est pas... c'est pas Platon, ils sont pas Platon quand même, non?
Non, bien sûr, mais c'est comment dire en un mot, les façons de faire, les façons de voir, les opinions, les façons de diriger, donc je me suis permis d'utiliser ce mot, les philosophies disruptives, disons que c'est simplement les façons de voir différentes, en rupture de la plupart de ces grands dirigeants.
Mais en même temps, quand je vous pose ces questions, ce n'est pas pour être que désagréable, c'est plus que la philosophie, ça montre que derrière, il y a une volonté, il y a une réflexion, en fait, par rapport à cette disruption, oui, pour reprendre. Oui. Et est-ce que, au départ, c'est pas très empirique? Parce que si on prend les débuts de Bernard Arnault, qu'on connaît bien, il y avait rien de je veux être disruptif. Si vous voulez, il a eu l'occasion, il était dans l'immobilier, promotion immobilière, et puis il a dîné avec les Boussins, qui se sont rendu compte qu'il y avait une possibilité, une pépite qui s'appelait Dior, et hop, c'est parti pour une formidable aventure.
Tout à fait. Je prends un autre exemple, si vous le voulez bien. Emmanuel Faber.
Oui.
Emmanuel Faber pense que la globalisation doit avoir un rôle social. C'est le premier dirigeant, j'ai entendu dire une chose pareille, si vous voulez.
Oui, mais après, il l'applique, vous voyez.
Oui, il l'applique. Chose, dans les... absolument, il l'applique. Oui. À son avis, la globalisation dans l'industrie alimentaire, maintenant, est arrivée à sa fin. Si je puis... Vous avez d'un côté l'obésité qui progresse, les agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de ce qu'ils font, le climat qui se dérègle. Enfin, il est arrivé à la conclusion définitive. Oui. Attendez, il agit véritablement. Par exemple,
c'est pas parce qu'il ne veut pas venir ici, donc je peux pas vous dire.
Il relocalise tous ces centres de production, dont toutes les sociétés internationales, normalement, dans le portefeuille de marques, vous privilégiez les marques internationales au dépit des marques locales. Lui, il pousse toutes les marques locales. Il vient de créer
un... Evian, c'est pas une marque locale, hein.
Comment ?
Evian, c'est pas
non, je dis pas, mais dans le portefeuille général, en pourcentage, les marques locales chez Danone prennent plus d'importance que les marques internationales.
Si je vous pousse un tout petit peu, c'est parce que on sait surtout depuis la loi PAC qu'il y a la raison d'être des entreprises.
Oui.
Et donc, c'est devenu un outil de communication, beaucoup plus qu'une réalité. C'est vraiment devenu un outil de communication. Oui. Et souvent, du reste, on n'y comprend rien, en l'occurrence. Mais moi, je trouve qu'on a beaucoup basculé dans la com et l'action, il faut suivre pour être disruptif et faire les histoires que vous racontez.
Vous avez raison.
Ce sont des mecs qui sont vraiment disruptifs.
Vous avez raison, ça peut vite devenir du jargon marketing.
Ah oui.
Bon, bien
pour
sûr.
Vous.
Voilà, bien évidemment.
Et pour nous.
Il n'empêche qu'on peut quand même se réjouir du fait que les pouvoirs publics aient souhaité que certaines entreprises puissent inscrire dans leur statut le fait qu'elles sont là pour trois raisons. Gagner de l'argent, la finance, mais aussi aider sur le plan environnemental et sur le plan sociétal ou social. Donc on ne peut que s'en réjouir. Mais comment dirais-je ? Prenez l'exemple de Marc Benioff. Patron de Salesforce. Il a créé un modèle 1-1-1.
Oui.
Vous voulez pas que je vous le raconte ?
Non, parce que je veux dire, moi je voudrais vous parler, il nous reste 48 secondes, tout d'un coup j'ai vu. Bon. Non, Alibaba, parce qu'aujourd'hui on en parlait, parce que hier il y avait la fête des célibataires avec ces chiffres complètement dingues de 38 milliards de dollars qui ont été générés. C'est Jack Ma, ça c'est très bien, incroyablement disruptif à tout point de vue pour le coup.
Bien évidemment, parce qu'il est disruptif. Et en fait, il est disruptif de façon intéressante, c'est qu'il ne crée, il n'a pas de... C'est quelqu'un de très intéressant, il ne crée pas de stratégie à long terme. Il pivote en permanence en fonction des réactions des concurrents. Et au départ, il n'avait absolument pas prévu de faire Taobao ou Alipay, ou ce qui est aujourd'hui le cœur d'Alibaba. Donc c'est quelqu'un qui a su s'adapter en permanence et disrupter en permanence, bien évidemment.
10 secondes, celui qui vous a le plus marqué dans tout ce
Zhang
que vous
Weimin,
racontez.
Le chinois, Zhang Weimin.
D'accord.
Pour les raisons que je viens de dire, c'est quelqu'un qui pense que toutes les sociétés occidentales ne savent pas tirer le meilleur parti de leurs collaborateurs.
Une règle à ceux qui vous écoutent pour être disruptif.
Lire mon livre et puis essayer de faire en sorte de s'inspirer de l'ensemble des personnes qui aujourd'hui façonnent l'entreprise de demain.
Et donc là-dessus, là, c'est vrai que vous donnez beaucoup d'exemples et puis ça rentre bien dans le détail. Oui. Hein. Thank you for disrupting. Et c'est publié, donc c'est publié où du reste ?
Chez Pearson.
Voilà, merci, parce que c'est pas écrit dessus, c'est pour ça. Merci beaucoup Jean-Marie Dru.
Merci.
A été notre invité, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15 et puis dans l'Orage, bonne journée.